Des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Academy.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Alors, ici Elisabeth Antebi pour ce parcours avec Monsieur X, je vais vous poser une devinette. Qui a deux cartes de visite bien distinctes, l'une universitaire, l'autre au sein d'une grande entreprise? Qui est un spécialiste d'Eschyle? Qui est un ami de Jacques, même un ex-élève de Jacques Joanna, notre grand spécialiste de Sophocle? Qui a été président de l'Académie de Caen? Et qui est un des associés d'un des plus puissants cabinets d'audit de la planète, PricewaterhouseCoopers? Enfin, qui dirige l'opération Phoenix? Bernard Deforge, bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'ai répondu à la devinette.
Oui.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Ah ben vous auriez pu, quitte à être sur les cartes de visite, mais ça je ne voulais pas donner, mettre la carte de visite de vice-président des éditions des Belles Lettres et vice-président de l'association Guillaume Budet.
Et directeur d'une revue?
Oui, directeur de la revue Kentron, etc. Mais à un moment...
Faut bien
trop,
s'arrêter.
C'est trop, voilà, trop, c'est trop.
Non, non, c'est pas trop. Surtout, c'est vous êtes comme Janus à double tête, si je puis dire. Sauf que vous ne regardez pas d'un côté le passé. Ah, si, d'un côté le passé, l'antiquité, de l'autre côté l'avenir.
Et vous, si je peux vous, rebondir sur cette image de Janus, vous savez que c'est une image que j'utilise. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui va paraître dans quelques temps. Sur ce sujet, que sur Eschyle, alors c'est dans le bon, j'ai écrit sur Eschyle il y a déjà longtemps, puisque c'est mon auteur, je dirais, favori et qui m'a initié à la Grèce. Mais je dis depuis quelque temps que Eschyle, c'est aussi Janus, parce que Eschyle, c'est quelqu'un qui s'est trouvé un carrefour, je dirais, plutôt qu'un carrefour, à un changement de... une charnière, disons plutôt, puisqu'on est dans le domaine du temps. Et il a joué un rôle beaucoup plus important qu'on ne croit, mais là je ne vais pas me lancer trop sur Eschyle, je veux juste développer cette idée de Janus. Eschyle, qui a créé le théâtre, qui était un genre nouveau qu'il a réellement créé, en même temps, grâce à cela, il a fait entrer tout ce qu'il a hérité des civilisations précédentes. Alors, on peut le regarder de deux façons. On peut le regarder comme quelqu'un qui regarde le passé, qu'il regarde parce qu'il en est l'héritier, et puis quelqu'un qui regarde l'avenir puisqu'il a créé le théâtre qui est toujours le nôtre et dans lequel il a pu faire passer une vision du monde qui autrement serait sans doute évaporée, en tout cas pour ce qui est du monde grec, puisque sinon on en trouve quelques traces chez Homère, mais quoi qu'Homère, c'est une autre chose, je crois, et sans doute beaucoup chez Hésiode. Mais Hésiode, alors là, nous avons très peu conservé. Alors c'est pour ça que cette image de Janus, ça correspond bien aux héritages et puis au regard vers l'avenir.
Alors, en outre, il y a un point commun entre Eschyle et vous, si on peut dire, à travers le temps, c'est qu'Eschyle était un homme éminemment du présent, parce qu'on a parlé du passé et de l'avenir, mais c'était un homme du présent, puisqu'il était, je crois, soldat. Il a participé à deux des guerres médiques, me
semble-t-il. Absolument, hein, les deux. Il a été à Marathon et il a été à Salamine.
Oui, et il a écrit, de l'autre côté, il a écrit Les Perses, qui est la première tragédie à ma connaissance où on s'occupe de l'ennemi. C'est-à-dire, il se met dans la peau de l'ennemi, ce qui est quand même une chose
très originale,
extrêmement rare. Enfin, pour l'Orient, c'était impossible, ou à peu près.
Oui, oui. C'est tout à fait extraordinaire, mais en même temps, comment dirais-je, cette pièce est aussi novatrice par le fait qu'elle mettait aussi en scène des événements d'actualité. Ah, c'est là que aussi vous dites tourner dans le temps présent.
Oui, vous n'êtes pas un guerrier, mais enfin vous êtes un guerrier quand même, non pas des guerres médiques, mais des guerres d'aujourd'hui, des guerres économiques d'aujourd'hui finalement.
Oui, d'une certaine façon, oui, absolument. Bon, c'est sûr que c'est un peu le monde dans lequel on est qui nous fait exercer et découvrir nos qualités, disons.
Alors, nous allons quand même commencer par le commencement. Surtout avec vous, il faut un fil d'Ariane. Donc, vous commencez comme, bien sûr, avec une agrégation. Vous avez été élève à Nanterre, où vous êtes revenu, je crois, comme par la suite.
Assistant, hein. Maître assistant, etc.
Oui. Vous avez commencé, au fond, votre carrière universitaire, vraiment.
Oui, oui, absolument. Hein? J'ai commencé ma carrière universitaire après les quelques courtes années de lycée après l'agrégation. Je suis revenu à Nanterre où j'avais été étudiant et je suis revenu comme assistant de ce qui, à l'époque, se pratiquait et n'avait pas que des inconvénients. Hein, je veux dire, d'être assistant du professeur avec lequel on travaillait. Et les mots avaient bien un sens. J'étais son assistant, mais aussi j'apprenais beaucoup en même temps. Les carrières d'un certain côté.
Puis vous étiez maître assistant.
Puis maître de conférence.
Maître assistant,
maître de conférence, puis ensuite professeur. Il y avait un chemin. Alors, bon, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet quand même qui est lié à la vie des jeunes aujourd'hui et des jeunes chercheurs, parce que...
On parle de cursus, d'ailleurs.
Oui, je vais dire aujourd'hui, à force de, comment dirais-je, d'avoir peur des mots, parce qu'il faut que tout le monde soit professeur, vous comprenez. Alors donc, assistant, ça fait penser au mandarinat, enfin je suppose, dans certains esprits. Donc, il faut que tout le monde soit professeur. Bon, depuis le professeur des écoles jusqu'au professeur d'université, donc tout professeur. Alors du coup, les grades intermédiaires sont gommés de façon, je veux dire, artificielle, parce que dans la pratique...
Et même au fond, on méprise ce titre merveilleux, qui était un titre merveilleux autrefois, celui d'instituteur.
Absolument, absolument. Mais tout ça,
On le dévalorise.
Donc, il faut que tout le monde... Mais derrière, c'est une totale hypocrisie, parce que derrière, il y a les réalités, les carrières, les enjeux. Bon, donc, les jeunes qui aujourd'hui arrivent à l'université, après avoir donc eu leur doctorat, alors encore, c'est un parcours de combattant.
De quel niveau est le doctorat?
Dans nos études, bon, c'est un sujet, dans les études de philologie, je pense qu'on fait partie des universitaires qui ont gardé le souhait que les doctorats, même dits d'université, qui ne sont plus les doctorats d'État, soient d'un niveau quand même d'excellence, bon, ce qui est très bien, mais qui en même temps pour les étudiants est difficile parce qu'ils font un travail énorme pour arriver à avoir ce doctorat. Or, ce doctorat leur donne quoi ? Il faut ensuite qu'ils obtiennent l'habilitation, donc c'est un deuxième doctorat. C'est un chemin extrêmement difficile, mais dont les règles sont beaucoup plus cachées qu'autrefois.
Oui, le mot, c'est dissocier de la chose, si on peut dire, reprendre le fameux poème.
Alors donc, effectivement, sur le sujet de ma carrière, j'ai commencé en retournant assistant auprès de Jacqueline Duchemin, qui avait été mon professeur à l'époque... Maintenant, j'allais dire antique. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir dans mon jury de maîtrise les deux Jacqueline, Jacqueline Duchemin et Jacqueline de Romilly.
Et Jacques Joanna comme professeur.
Et Jacques Joanna qui commençait, qui arrivait. Quand j'étais étudiant, Jacques Joanna est arrivé, bon, je crois, comme assistant ou maître assistant à Nanterre. Voilà. Donc, j'ai eu... et d'ailleurs, il l'a rappelé récemment dans un jury de thèse qu'il dirigeait et laquelle il m'avait aimablement invité à participer. Donc, j'étais membre de ce jury de thèse et à mon grand étonnement, au moment de l'ouverture de la séance, et il a dit qu'il avait plusieurs satisfactions ce jour-là, non seulement d'avoir cette étudiante brillante qui soutenait sa thèse, mais en plus d'avoir le plaisir d'avoir un de ses anciens élèves dans le jury. Voilà.
Bon, alors ça, donc on parle de l'amorce du début, pas de l'amorce, mais du début de votre carrière universitaire. Mais déjà, vous brouillez les pistes, si je puis dire, c'est-à-dire que dans ces mêmes années 70 à peu près, hein, je crois que c'est dans les années 70.
Oui, absolument, absolument.
Vous entrez dans le domaine public, c'est-à-dire que vous travaillez déjà, même modestement, à l'éducation nationale et au secrétariat d'État au logement, ce qui est plus surprenant d'ailleurs. Donc vous participez à des politiques du logement d'ailleurs assez actives et pugnaces de l'époque. Pourquoi tout d'un coup, vous étiez encore jeune, hein, vous étiez au début d'une carrière universitaire. Pourquoi est-ce que vous vous mêlez tout d'un coup de franchir le seuil des ministères ?
Pas, je ne vais rien cacher. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, quand j'étais étudiant à Nanterre, j'ai été étudiant en 1968. Bon, comme je dis souvent, je suis un ancien de 68, mais je n'étais pas du côté de ce qu'on appelle les 68-ards. J'étais en train de terminer mes études. J'étais très heureux des études que je faisais, que j'avais choisies. Et puis j'ai découvert une agitation. Je n'étais pas très engagé politiquement. Je n'ai jamais été tellement conforme à l'ère du temps. Alors disons, mais enfin, je regardais tout ça.
Il faut dire que vous avez des origines bretonnes et ardennaises qui n'ont jamais porté à plier le coup.
Sans doute. Mais j'ai observé, j'ai tout de suite observé. Bon, moi, c'est ma première expérience politique, si vous voulez, au sens de ce qui m'entoure. Avant, bon, je vivais la vie d'un jeune homme qui d'un certain milieu, qui suivait des études, qui faisait des études qu'il aimait. Bon, très bien, je ne m'étais jamais posé tellement de questions. Et là, je me trouve dans un bazar incroyable et entouré de personnes qui veulent m'empêcher de faire ce que je veux faire. Donc, par justement un goût personnel de résistance qui s'est manifesté à ce moment-là. Je n'ai pas supporté cela et donc j'ai, en 1968, à Nanterre, fait partie d'un petit groupe qui a toujours veillé à pouvoir suivre ses cours. Et c'est ainsi que Jacqueline Duchemin, qui était également un professeur qui ne pliait pas les chines, a fait quasiment pendant tout 68 ses cours en amphi. Bien sûr, on n'en parlait pas, parce qu'il fallait toujours dire que tout était occupé, rien ne pouvait se faire. Mais si vous voulez, c'est un engagement politique.
C'était même héroïque à l'époque.
Voilà. Mais,
parce que ça castagnait.
Ça castagnait, mais il y avait plus de respect des gens qu'aujourd'hui. Je veux dire, j'ai vu Jacqueline Duchemin faire face à des hordes, si on peut dire, mais qui, devant cette petite bonne femme déjà d'un certain âge, eh ben, la respectait. Je pense qu'aujourd'hui, les choses seraient différentes. J'ai vu, puisque l'année dernière, j'étais encore doyen de la fac de lettres de Caen et j'ai vu les occupations de locaux autrement violentes que ce que j'ai connu en 68. Alors, je ne parle pas des moments extrêmes, des bagarres de rue, ça c'est autre chose. Je parle dans l'université. Alors, donc, j'ai eu un engagement. Et donc, disons, j'ai fait des choix. Bon, et à l'époque, après, on continuait dans le sens où après, j'ai rejoint le général de Gaulle, si je puis dire modestement, qui avait après l'occasion de son appel. Donc, c'est à ce moment-là que je suis devenu pour la fin gaulliste. Bon, bien.
C'est vrai qu'il y a eu deux appels.
Ah oui, alors celui-là m'avait beaucoup marqué parce que j'ai trouvé qu'il a dit ce que moi je vivais. J'ai entendu ce que je voulais entendre.
Les copains et les coquins.
Voilà. Alors, à partir de là, je suis devenu professeur de lycée. Et j'ai d'ailleurs eu aussi une autre expérience, puisque, mais ça s'explique, si vous voulez, moi, je n'ai d'autre explication qu'en racontant un petit peu les faits. Et dans ce lycée d'Amiens où j'ai été nommé, je suis arrivé sur la place rouge de l'époque. Je veux dire, c'était incroyable. J'ai découvert un lycée où tout était organisé par le Parti communiste, la salle des professeurs. On avait l'humanité obligatoire, on avait des
et affiches. Et vous avez brandi les humanités.
Voilà, donc je me suis manifesté. J'ai manifesté aussi mes opinions politiques à ce moment-là. Bon, ça a été une expérience assez intéressante de lutte pour la liberté, pour pouvoir penser et s'exprimer. Si vous voulez, c'est des choses étonnantes. On oublie ces choses-là. Moi, j'ai vu des vieux professeurs dans cet établissement, j'étais très jeune, j'avais 24 ans, venir me voir et pleurer en me disant « Vous nous avez redonné la dignité. Vous nous avez redonné la possibilité de penser autrement. »
Mais ça, c'est, et de transmettre.
Et le transmettre. Non, mais c'était incroyable, des choses comme ça.
Alors, Bernard Deforge, on va revenir un tout petit peu là-dessus, juste après, sur la politique, justement, sur le sens politique de quelqu'un comme Platon. Vous en parlez très bien, mais nous faisons une petite pause et nous revenons dans quelques minutes. Nous reprenons l'émission Parcours avec Bernard Deforge. Et Bernard Deforge, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Comment êtes-vous arrivé dans les cabinets ministériels ?
C'est très simple. Alors, je voulais donner cet éclairage qui était lié évidemment à un engagement politique de terrain, si je puis dire, bon, qui est quand même est important. Et de l'autre côté, alors que j'étais professeur de lycée à Amiens dans les conditions que je décrivais, bon, c'est des choses tout à fait intéressantes, mais la vie offre des possibilités étonnantes. Donc, j'ai été appelé à ce moment-là par un membre du cabinet du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était donc Joseph Fontanet. Et quelqu'un m'a appelé au lycée en me demandant de prendre contact avec le cabinet. Et on m'a proposé, en tant que jeune agrégé, de rejoindre le cabinet de Joseph Fontanet pour, au départ, vous savez, ce que font les jeunes agrégés des lettres, eh bien, commencer par travailler sur ses discours et lui apporter un éclairage, justement, des humanités. J'ai réfléchi quelque peu, mais je ne savais même pas ce qu'était un cabinet ministériel à l'époque. J'ai eu beaucoup de circonstances dans la vie, comme ça, de propositions qui ne résultaient pas d'une démarche d'ambition particulière, qui était simplement une proposition qui m'était faite et qui m'ouvrait quelque chose d'intéressant.
Pour la politique, on va y revenir, mais je vais vous lire à vous-même. oui, dans « Le commencement est un dieu », vous écriviez, voilà, un peu moins de 20 ans. Depuis Platon, l'idée de la cité, polis, l'emporte sur la cité. La cité avec un grand C l'emporte sur la cité avec un petit c. Et ce fantasme nourrit aujourd'hui, après Maz Avatar, la pensée post-hégélienne. Or, la cité, point de salut, point d'interrogation. Tout au rebours, il m'apparaît que chez les Grecs, comme pour nous, c'est au fond de l'homme d'abord, dans ce qu'un dieu y a mis au commencement, les mythes en même temps que l'être, héritage génétique en même temps que culturel, qu'il y a eu et qu'il ait quelque chance de salut et quelque sens. Les muses à Hésiode ont appris les vérités sur l'Hélicon. Alors, donc, vous entrez en politique, est-ce que c'est déjà avec cette idée que l'homme est au centre des choses plus que la ville?
Tout à fait, tout à fait. Enfin, en vous écoutant, je reconnais ce texte, je ne changerai rien aujourd'hui, mais quand je suis entré, disons, en politique modestement, c'était dans cet esprit. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout eu de, comment dirais-je, je n'ai pas eu du tout de séduction exercée sur moi par les pensées dominantes de l'époque, et qui, effectivement, sont décrites brièvement dans ce que vous venez de lire, comme étant une espèce de fantasme de la cité, et c'est un fantasme aussi de la cité grecque, d'ailleurs, qu'on a reconstitué à partir de quelques textes.
C'était un peu descendu des cimes platoniciennes, tout à fait.
Certes, tout à fait, mais en même temps, Platon lui-même est tellement riche et tellement original dans son approche qu'il n'est même pas conforme, en plus, parce que si on opposait à ses tenants d'une cité fantasmatique la vraie cité de Platon, qui d'ailleurs aussi mérite pas mal de critiques, même si je suis un grand amateur de Platon. Donc, j'ai trouvé que, si vous voulez, ce que je veux dire là, après que j'ai nourri par les travaux, par mes réflexions et mes travaux, c'était que le monde grec, moi, m'a séduit très tôt. Il m'a séduit dès l'époque du lycée, parce que j'y ai entendu des choses qui me parlaient. Quand je lisais les chœurs d'Eschyle, les odes de Pindare, à l'époque du lycée, je ne sais pas si j'avais encore découvert Hésiode, Homère, bien sûr.
Plus récemment, Aristophane, vous m'avez dit.
Et puis Aristophane aujourd'hui, mais on pourrait le mettre effectivement dans cet esprit. Je trouvais chez ces auteurs quelque chose qui m'était immédiatement proche et qui m'apportait, même pour ma conduite de mon existence, petitement ou plus. Et j'ai senti que j'avais là un trésor qui, pour moi, me garderait ma route.
Alors, c'est ce trésor que vous voulez donner aussi à travers l'opération Phénix. Parce que, on reviendra après au début de votre vie, mais ce qui est très intéressant chez vous, on essaye de décortiquer ce que vous avez fait, c'est assez difficile puisque c'est des chemins parallèles. Mmh. Donc, évidemment, vous meniez tout de front. Mmh. en particulier deux choses à la fois. Vous aviez deux chars à la fois, ou deux chevaux attelés aux chars. Mmh. Et au fond, dans l'opération Phénix, qui est l'opération de la fin de tout ce parcours, enfin, en vous souhaitant d'ailleurs de rebondir sur autre chose par la suite, mais Phénix, vous rendez compte, la renaissance de tout. Bon. Et puis la pourpre, puisque je crois que le Phénix, c'est le rouge. Bon. Donc, l'opération Phénix, dont nous allons parler, c'est une opération où quand même vous essayez de mettre en relation le monde de l'université, pour faire bref, et le monde de l'entreprise. Mmh. Tout ça dans une vision aussi très politique, alors au sens très large du mot, puisque vous remettez l'homme au centre de la chose et que les entreprises qui jouent le jeu sentent bien que ne plus remettre l'homme au centre du débat et des choses, c'est manquer d'efficacité au fond, puisque c'est la seule chose qui les intéresse. Bon. Alors voilà, comment est-ce que vous en êtes venu là? C'est-à-dire, est-ce que très jeune, quand vous avez amorcé ce parcours, par la politique, par l'université, est-ce que ça vous est venu relativement tôt ou est-ce que la recherche vous suffisait, si l'on peut dire?
Alors, bien sûr, parce qu'il y a quand même du temps qui s'est écoulé tout au long de ces activités. Certaines ont été parallèles, d'autres ont disparu, se sont modifiées. Donc, si vous voulez, quand j'étais au début de ma carrière de jeune universitaire, j'avais ma thèse à finir, ce qui était une thèse d'État à l'époque. Donc, ma thèse sur Eschyle. Donc, j'avais ça comme enjeu. Et en parallèle, j'ai eu mes activités de cabinet ministériel tant à l'éducation nationale, puis ensuite au secrétariat d'État au logement, où j'ai travaillé avec Jacques Barrault. Et en parallèle, j'ai eu des engagements politiques. À une époque, je me suis présenté à des élections en 78, qui, je le dis aujourd'hui, même si à l'époque, on n'aime pas
échouer.
Et législative. Législative. Ah ouais. J'étais législative dans des endroits difficiles, puisque j'étais candidat à Sarcelles en 1978, pour l'époque, je ne sais plus quel était le nom du parti à l'époque, mais enfin, je n'étais pas le candidat de gauche, puisque à la gauche, c'était le candidat communiste Henri Kanakos. Donc, je continuais, à m'opposer au communisme. Le combat était simple à l'époque. Bon, pour moi, en tout cas. Bon, ensuite, les choses sont plus compliquées. Mais je trouvais que c'était clair, déjà, de supprimer les communistes de la vie politique. Ça me paraissait un assainissement nécessaire. Donc ça, j'y ai contribué avec toutes mes forces de jeune. À l'époque, c'était avant 30 ans.
Pourquoi ? C'était de la mémoire faisant table rase ou...
C'était oui, en partie ça, bien sûr, mais aussi c'était quand même lié à la connaissance qu'on avait de la situation dans les pays paradisiaques qu'ils nous promettaient. Donc je pense que...
On était déjà très au courant.
Voilà, on était déjà très au courant. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais beaucoup étudié et qui m'intéressait. Donc il me semblait devoir quand même briser ce blocage, mais dans lequel on est encore en partie chez nous. Enfin, je ne vais pas faire de la politique.
Non, d'ailleurs, pour revenir aux Grecs, Jacqueline de Romilly dit souvent que nous avons une fort mauvaise notion de la liberté, puisque nous parlons de liberté individuelle. Alors que la liberté pour les Grecs était la liberté du peuple tout entier, parce que c'est le peuple tout entier qui, vaincu, partait en esclavage.
Ça, c'est juste, oui.
Voilà. Donc, nous revenons à votre combat. C'est au fond Eh oui.
Oui. Ben, écoutez, vous êtes... Je ne vais pas récuser cette analyse, même si, à l'époque, tout ça se faisait de façon peut-être moins...
Spontanée.
Moins réfléchie et plus spontanée. Alors, si vous voulez, donc, d'un côté, il y avait cela, mais je n'ai jamais abandonné mes travaux qui, dans ces périodes donc, d'activité, disons, politique ou de cabinet ministériel. Donc, j'ai avancé mes travaux. Et même dans la période où j'étais candidat, que j'évoquais à l'instant, et Dieu sait si des élections législatives dans une grosse circonscription de la banlieue parisienne, c'est très difficile. J'ai donné mes cours et mes étudiants, sauf ceux peut-être qui s'intéressaient à ces sujets, pouvaient savoir que j'étais candidat. Mais sinon, je pense que la majorité ne s'en était jamais rendu compte.
Donc, dans l'histoire de l'opération Phénix, qu'on va expliquer dans quelques minutes après la pause, vous ne contestez pas l'importance de la recherche et de la recherche seule.
Ah bah bien sûr.
Des chercheurs peuvent être chercheurs sans vouloir être efficaces.
Il ne s'agit évidemment pas de détourner les jeunes gens de la voie de la recherche. Il s'agit simplement de leur ouvrir une fenêtre autre, en plus, s'ils le veulent.
Voilà. Nous allons arrêter quelques minutes.
Thank you. Vous écoutez Canal Académie.
Bernard Deforge, nous revoilà. Après avoir parlé d'Eschyle et de votre propre parcours, nous allons essayer de parler de cette opération que vous lancez, que vous tenez à bout de bras comme De Gaulle tenait la France, disait-il, si je puis le permettre, qui est l'opération Phénix. Alors, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si c'est faux, Phénix est né d'une discussion, semble-t-il, entre Jean-Robert Pitt, le président de la Sorbonne et le président de Pricewaterhouse, qui est, rappelons-le, une boîte d'audit américaine extrêmement sérieuse et extrêmement dure aussi, et estimée. Donc, a priori, c'est assez curieux déjà comme, comme approche. Alors, elle consiste, et vous m'arrêtez encore une fois, à ouvrir en effet une fenêtre sur autre chose pour les gens qui viennent des universités, mais aussi pour les gens qui sont dans l'entreprise, à ne pas mépriser ce terreau extraordinaire qui vient des universités, en particulier les littéraires, parce que maintenant vous approchez les scientifiques, mais moi les littéraires me semblent plus étonnants dans la mesure où il est très difficile en effet de leur trouver des débouchés. Alors, comment tout cela est né? Comment vous êtes-vous retrouvé là-dedans?
Je vais essayer d'être bref. Alors, ça rejoint un peu ce que vous me demandiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment, au cours de mon parcours, où j'ai donc mené ma carrière universitaire et mes travaux de recherche qui ont débouché sur des livres et des articles, bon, comme toute carrière de chercheur qui se respecte. En parallèle, j'ai découvert le monde de l'entreprise par des circonstances toujours un peu de hasard dans le cadre de mes activités de cabinet ministériel. J'ai été en contact avec ce qu'on appelle les cabinets d'audit. C'est comme ça que j'ai connu le monde de l'entreprise. Et j'ai découvert, parce qu'on me l'a proposé à l'époque très petitement, d'apporter mon concours à l'activité de ce cabinet qui était Cooper Célibrand à l'époque, et auquel j'ai apporté donc mes réflexions, sans savoir que finalement, quand j'ai mis le doigt là-dedans il y a une vingtaine d'années, eh bien j'y serai toujours 20 ans après. C'était simplement une collaboration avec quelqu'un avec qui j'avais sympathisé et qui me demandait de l'aider. Alors j'ai notamment remarqué, j'ai donné une unité à mes travaux, puisque j'ai fait partie de l'équipe de Cooper Célibrand de France, qui a été planté son drapeau dans les pays d'Europe centrale et orientale après la chute du mur de Berlin, de façon à ouvrir des cabinets dans ces pays-là. Donc j'étais quand même toujours dans la ligne, vous voyez, de mes idées, même si là, c'était dans une perspective professionnelle. Alors ça, je l'ai mené en parallèle à mon activité universitaire complètement, y compris à l'époque où j'ai été doyen de ma fac, c'est-à-dire pendant 8 ans. Et j'ai donc là...
Rappelons-le, vous étiez doyen de l'université de Caen. Hein.
Et donc,
la plus grosse, je crois, de France.
C'est une grosse fac de lettres. Il y a une très grosse fac de lettres.
La plus grosse fac de lettres, pardon, de France.
Oui, mais... Alors, là, c'était un très gros travail, mais j'ai mené tout ça quand même. J'ai tâché de mener tout cela de front, et ça prouve que c'est possible, puisque c'est... D'ailleurs, j'ai été élu doyen par mes collègues. Je n'ai pas cherché à être élu doyen, c'est que mes collègues avaient estimé que je pouvais mener cette tâche. Alors, j'ai découvert, si vous voulez, en avançant dans cette activité dans un cabinet, qui d'ailleurs, je veux faire une petite correction, puisque j'en suis maintenant associé, on dit cabinet américain, ce n'est pas exact, c'est d'origine anglo-saxonne, comme on dit. Le nom, évidemment, est totalement américain, mais le cabinet lui-même en France est un cabinet de droit français, avec des associés français, avec un capital français, etc. Donc, je corrigerai aussi, vous dites que c'est dur, c'est vrai, c'est difficile, mais c'est une vie professionnelle dans laquelle les aspects humains ne sont pas absents, même sont très présents, quelquefois même plus qu'à l'université, puisque j'ai connu les deux milieux. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que l'idée a germé, c'est-à-dire que le président actuel de PricewaterhouseCoopers,
comment il s'appelle ?
Serge Villepelet, auprès de qui je travaille donc régulièrement et qui me connaît pour justement ma double casquette, si je puis dire, a réfléchi avec moi sur cette difficulté qu'il ressentait dans le cabinet français de n'avoir que des gens, des jeunes gens de qualité certes, mais formés toujours de la même façon, avec l'idée que c'était pas sain. Et qu'en plus, avec le resserrement du marché du travail dans le domaine notamment des services qui se développent à la fin justement de la période dite du papy-boom, eh bien, on a des difficultés. Donc les entreprises mesuraient, et lui en particulier, à la fois l'intérêt d'avoir des esprits différents pour vivifier, pour réfléchir sur les services à venir, sur les des approches différentes, et puis aussi par un intérêt immédiat qui est de diversifier le recrutement pour qu'il y ait recrutement. Parce que si on reste dans un recrutement trop étroit comme le système français le fait, eh bien on va vers une impossibilité. Il y a des études qui sont faites, pas seulement en France, mais aussi en France, qui montrent que si on en reste dans le système actuel, dans une dizaine d'années, eh bien on ne pourra plus recruter chez nous les gens qu'il faudra.
Il y a une recherche d'autonomie, je crois. On cherche aussi des gens qui savent être autonomes.
Qui savent être autonomes.
Et se prendre en charge.
Voilà.
Oui. Donc la recherche, non, je dis ça parce que la recherche guide les gens, enfin les dresse à être autonomes.
Absolument. Alors donc nous avons fait des études. Enfin, je veux dire, au-delà de mon propre cas, il y avait aussi une analyse qui a été faite, parce que c'est bien ce qui se passe en Grande-Bretagne. On sait que les grands cabinets de sous-ordre, y compris les banques, recrutent dans tous les domaines, histoire de l'art, musique, etc.
Vous citez ce fameux banquier qui est spécialiste de Shakespeare.
Voilà, que j'ai trouvé. Voilà, voilà, absolument. Et qui répondant à une question un peu provocante, on lui disait, mais enfin, qu'est-ce que votre formation vous apporte? Mais il dit, mais moi, Shakespeare est toujours mon livre de chevet et ça m'aide, y compris dans la conduite de mes affaires et de ma vie. Et je pourrais répondre la même chose à propos d'Eschyle, personnellement.
Tout est dans Eschyle.
Voilà, oui. D'une certaine façon.
Oui, mais tout est dans Eschyle, d'ailleurs.
Oui. Mais là, je ne m'embarque pas dans votre invitation à parler d'Eschyle, parce que nous parlons non plus de Phénix. Oui. Mais, alors, si vous voulez, c'est ces observations-là, une réflexion en commun, une rencontre avec Jean-Robert Pitt, puisque l'idée était quand même de faire quelque chose d'un peu symbolique. Donc, au départ, nous sommes partis de cette idée Sorbonne et un grand cabinet.
Oh mon Dieu, la compréhension de l'adversaire chez Eschyle doit être très intéressante dans des conduites des affaires.
Absolument. Mais il faut toujours quand même un facilitateur. Hein. Et
oui,
c'était un
vrai,
peu ce que j'étais dans le sujet. Cela dit, Serge Villepellet était parfaitement ouvert au sujet puisqu'il y avait réfléchi et Jean-Robert Pitt avait déjà mené des ouvertures vers le monde de l'entreprise. Donc, moi, j'ai simplement usé de mon expérience pour mettre en forme un projet. Alors, le succès était dès le départ puisque au lieu d'être simplement cette opération qui aurait déjà été très bien Sorbonne, PricewaterhouseCoopers, en fait, très vite, par des contacts, nous en avons parlé dans le monde des entreprises et dans le monde des universités, et nous avons été rejoints donc à l'époque par 6 entreprises autres, et puis nous avions 4 autres universités qui nous ont rejoints. Donc à partir de là, on a créé une sorte de partenariat avec des règles bien définies dans une charte pour ne pas effectivement faire une expérience qui serait volatile, qui serait...
Alors vos amis de toujours vous reprochent précisément dans cette charte d'être des nouveaux colonialistes, c'est-à-dire, je sors les arguments de l'adversaire. Ils vous accusent de réduire la recherche à devenir, au fond, le cheval de Troie, quoi, entre dans l'université, c'est-à-dire que, de toute façon, vous utilisez les étudiants, vous utilisez même les locaux, la recherche est soumise à l'argent, etc., etc. Donc...
Alors,
qu'en est-il ?
Oui, là, si vous voulez, les choses, ça, c'est des adversaires qui n'ont pas lu les textes et qui n'ont pas réfléchi, qui disent simplement qu'ils récitent leur catéchisme habituel. Donc, c'est tout le contraire. Alors, déjà, comme on le disait tout à l'heure, on ouvre une possibilité aux jeunes gens qui ont fait leur cursus complet et qui l'ont réussi, donc à la fin du Master 2, on leur dit, bien sûr, vous pouvez être enseignant si vous passez les concours de l'enseignement, c'est parfait. Vous pouvez être chercheur, et c'est d'ailleurs parfait aussi, et c'est formidable. Je veux dire, la recherche, c'est quelque chose pour lequel certains d'entre eux sont absolument faits et doivent continuer. Mais je sais aussi, par mon expérience de professeur, que l'université est incapable d'offrir des débouchés à tous les jeunes chercheurs brillants, y compris munis de leur doctorat, si c'était
donc,
le cas.
Donc, ce qui est important quand même, c'est que les entreprises les forment.
Alors, ça c'est...
C'est-à-dire qu'au contraire, on leur donne quelque chose.
Voilà, alors, donc les jeunes gens, donc, si vous voulez, ce qui est très important à savoir, c'est que leur cursus est mené à bien, et je dirais même que ce que nous faisons, qui n'est pas contraire à ce qui maintenant est le thème du ministre actuel, qui, à juste titre, dit qu'il faut rapprocher les universités et les entreprises, ça, nous sommes dans cette ligne. Mais par contre, nous ne nous inscrivons pas dans ce qui se développe quand même beaucoup aujourd'hui, qui est l'insertion au cours du cursus de formations professionnelles qui n'ont rien à voir avec le cursus. C'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps.
Et en gros, quoi, faut pas aller dans une entreprise de voiture en plein milieu d'une thèse
de philosophie. Oui,
paraît en effet surprenant.
Voilà, et ça, c'est quelque chose qui a tendance à être développé aujourd'hui. Donc, nous sommes complètement dans une autre perspective.
L'inversez même, puisque vous rapprochez au fond l'entreprise de l'université. C'est-à-dire que vous montrez aux entreprises que les universitaires leur apportent, au contraire.
Vous dites exactement ce qui est. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise qui entre dans l'université et qui s'accapare l'université, ça n'a rien à voir. C'est simplement l'entreprise qui s'ouvre. C'est simplement cela. Donc, il n'y a absolument...
Qui s'ouvre et qui forme. Parce que quand même, elle donne de son argent et de son temps.
Donc, une fois...
Si j'ai compris.
Oui, oui. Alors, ce qui est tout à fait, je crois, exceptionnel dans cette affaire, c'est que les jeunes gens qui le veulent, donc, participent à une opération de candidature à la suite d'informations qui leur sont données dans leurs universités. Ils sont donc recrutés par les entreprises partenaires sur des postes qui ne sont pas des postes spécialement sur mesure. C'est des postes qu'on estime pouvoir leur être offerts dans tous les domaines. Et avant d'entrer dans l'entreprise qui les a recrutés, ils sont, dès le départ, recrutés en CDI. Premier point. Ce n'est pas du CDD, c'est du CDI. Dès l'instant où ils sont recrutés. Et avant de rejoindre l'entreprise, il leur est offert une formation de 3 mois qu'on a fait sur mesure, qui est une formation très dense, très difficile. Maintenant, je peux en parler de façon détendue, puisque nous avons une première promotion qui a suivi ces 3 mois. Et ces 3 mois leur ont apporté tout ce qui est la base, bien sûr d'une façon encore un peu superficielle, mais ce qui est la base de la connaissance du monde de l'économie, du monde de la finance, de l'environnement de l'entreprise, des grandes questions liées à ces 3 domaines, et ce qui leur donne, je ne dirais pas peut-être autant que ce qu'ils auraient appris dans une école de commerce, mais qui les mettent à même ensuite d'arriver dans l'entreprise. Et ça, c'est entièrement à la charge des entreprises, et nous avions voulu, pour, disons, que notre collaboration soit étroite, que, à la demande des universités, que ça se passe dans le cadre des universités concernées. Donc, c'est ce que nous avons fait cette année, puisque ça s'est fait dans les locaux d'une université partenaire qui est Créteil, mais ça s'est fait moyennant paiement. C'est-à-dire que Créteil, tout en étant notre partenaire,
a reçu de l'argent.
Elle nous a facturé les locaux.
Voilà qui est bien. Mais alors, vous dites, pour résumer la chose, vous dites que à Price, par exemple, alors j'ai vu ça avec intérêt pour nos ouailles, c'est un latiniste, je crois, qui est chargé de l'Afrique. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il est latiniste, n'exagérons pas.
Non, ça c'est une expérience que j'avais faite. C'est chez Price, Grande-Bretagne, mais c'était avant la petite révolution que nous essayons de faire.
Toujours en Grande-Bretagne, oui.
Oui, c'était en Grande-Bretagne. Et ça, c'était un jour où moi-même, commençant à travailler dans ce milieu, et étant donc professeur à Caen, comme nous l'avons dit, je me suis trouvé lors d'une réunion internationale de Cooper Celebrand. À l'époque, c'était avant la fusion Cooper Celebrand Pricewaterhouse. Et je me suis trouvé à table, par hasard, à côté d'un Anglais, avec qui donc j'ai papoté, et qui me dit qu'il était professeur de latin à Oxford, et qu'il avait, par ailleurs, en charge, donc à côté de sa chaire de latin, il avait la responsabilité du développement des pays d'Afrique anglophone pour son cabinet, le cabinet Cooper Celebrand de Londres. Alors, évidemment, lui, c'était complètement en transparence, ça lui paraissait normal, alors que moi, je me sentais vraiment un animal bizarre à l'époque, étant dans mes activités universitaires, et puis, petitement, avançant dans cet univers nouveau.
Que Bill Gates paye les cours de latin d'Oxford, Microsoft.
Donc cette espèce de vie naturelle, de contact naturel entre les gens, est quelque chose que j'ai certainement par nature en moi, que ma culture de la Grèce antique m'a certainement apporté, pour rejoindre ce que vous disiez, voir Méchille qui était un combattant de marathon et en même temps un théologien et un homme de théâtre. Et puis, je l'ai aussi appris dans ces contacts. Je me suis rendu compte que la France... Moi, j'étais un petit Français formé comme on est en France, en pensant qu'on est dans le pays le meilleur, qui fait tout mieux, etc. Et j'ai découvert qu'il y avait des choses épatantes aussi ailleurs et qu'il y avait des blocages qui n'existaient pas. Et ça, je l'ai appris, notamment dans l'entreprise. Et cet exemple que vous citez m'a paru, m'a libéré en quelque sorte. Je me suis dit, mais effectivement, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas apte à mener ma barque chez Coopers et puis à faire mes travaux de recherche. Mais c'était une sorte de bataille, parce que ce n'était pas dans les mœurs. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis plus tranquille que quand j'étais un jeune professeur.
Qui a été le plus stupéfait de vous voir ? Est-ce que c'est le monde de l'entreprise ou est-ce que c'est le monde de l'université ?
Ah non, là, je dois répondre en toute franchise, puisqu'on est là pour ça, c'est le monde de l'université. Le monde de l'université...
Le plus baba, quoi, le plus...
Vous voulez dire baba devant Phoenix ou devant ma démarche ?
Les deux, puisque les deux se rejoignent.
Disons, devant ma démarche, d'abord, qui est déjà un peu ancienne...
Qui vous a trouvé le plus bizarre ?
Tellement l'université m'aurait trouvé bizarre que j'ai préféré, dans un premier temps, par expérience et connaissant mon univers, surtout de philologue, j'ai préféré ne pas en parler. Sauf à quelques amis qui, effectivement, me trouvaient bizarre et qui, sans doute, m'avaient toujours trouvé bizarre. Donc, ils se sont dit, il est conforme à la bizarrerie qu'on lui connaît. Mais sinon, l'université, ce que j'évoque il y a 20 ans, 25 ans, n'était pas apte à comprendre. Ça, je crois que réellement, j'aurais été vu comme un traître et ça aurait été ridicule parce que ça aurait empêché que les choses se fassent. Donc...
Comment voyez-vous les 10 années qui viennent, Bernard de Forge ? Est-ce que vous allez vous consacrer à l'entreprise, au lien avec l'entreprise, ou est-ce que vous allez nous écrire d'autres livres sur Achille ?
Alors, d'abord, j'ai d'abord pris une décision, c'est que j'ai quitté l'enseignement actif à la fin de l'année 2007. Donc, j'ai pris ma retraite, comme on dit, je suis professeur émérite à l'Université de Caen, j'ai encore des chercheurs qui préparent une thèse, et je suis toujours dans mon centre de recherche, qui maintenant est dirigé par un collègue très talentueux, et donc je suis très content de continuer de participer à leurs travaux. Bon. Mais j'ai fait un choix, et mon activité chez PricewaterhouseCoopers devient donc cette fois-ci l'activité principale. Alors qu'avant, elle était une activité seconde, je dirais, sinon secondaire. Donc là, je vais y consacrer quelques années, bien sûr. Et dans mon activité chez PricewaterhouseCoopers, l'essentiel de mon activité aujourd'hui, c'est que j'ai été mis par le président de PricewaterhouseCoopers à la tâche pour coordonner l'ensemble du projet Phoenix et le faire réussir.
Vous donnez combien de temps ?
Alors,
réellement ?
Je pense qu'il faut compter au moins 3 ou 4 promotions pour affirmer que l'opération marche bien. Alors, il y a déjà une première étape, c'est que nous avons réussi la première. Maintenant, nous devons réussir la seconde, sur laquelle je travaille, mais qui va se faire encore d'une façon, je dirais, artisanale. C'est-à-dire que ça se fera dans le cadre parisien, avec quelques universités, comme nous l'avons fait, sans doute rejoint par 2 ou 3 universités supplémentaires et rejoint également par 2 entreprises complémentaires, ça 2 au moins, puisque c'est fait maintenant, puisque nous avons L'Oréal et Randstad qui ont décidé de nous rejoindre. Donc l'opération va s'amplifier.
Il faut dire que ça, Société Générale, il y en a plusieurs, oui.
Alors, donc ça, c'est l'enjeu de cette année qui va évidemment être très important, et qui va être le développement de ce que nous avons fait l'année dernière. Et nous allons voir, nous avons déjà vu que les choses marchaient, j'ai vu les jeunes de la promotion, là, dans les entreprises, ça se passe très bien. Il faut attendre un peu, évidemment, pour mesurer leur capacité d'insertion. Et je dirais, pourquoi je vous disais ce nombre d'années ? Parce que je pense qu'il faut laisser 2-3 ans à la première promotion pour voir effectivement le chemin qu'elle va prendre. On pourra vraiment apprécier à la fois...
On va se donner rendez-vous dans 3 ans.
Oui,
quoi.
Oui, disons qu'on, il faut qu'on continue à développer l'opération. Et pour vraiment juger honnêtement, au-delà des bilans des journalistes auxquels j'essaye d'échapper, parce qu'on ne peut pas faire des bilans tous les 3 mois, le vrai bilan se fera au bout de quelques années, quand ils auront passé dans les entreprises le temps, comme les jeunes qui sortent des écoles de commerce, et on verra si leur parcours est identique. Pour le moment, en tout cas,
il est identique. On sera peut-être surpris, d'ailleurs, parce que peut-être qu'ils apporteront plus. Va savoir. Peut-être qu'ils apporteront un non-formatage.
Ah ben c'est ce qu'on souhaite.
Alors écoutez, nous allons nous donner rendez-vous dans quelques années, Bernard de Forge, pour un autre parcours de Bernard de Forge, qui nous racontera aussi le parcours de ces petits phénix. Et rappelons le mot d'Angelus Silesius qui disait « Nous avons deux yeux, l'un pour regarder le présent, le temps, et l'autre pour regarder l'éternité. » Voilà, c'est un peu le résumé de votre parcours, Bernard Deforge. Merci.
C'est très aimable, mais c'est moi qui vous remercie.